France Musique.
Bonjour Robert Carsen.
Bonjour.
Bienvenue dans la matinale de France Musique. Nous allons évoquer la Traviata que vous reprenez 10 ans après l'avoir créée, là où elle a été créée, à la Fenice de Venise.
Thank you.
Un extrait de la Traviata de Giuseppe Verdi avec Patrizia Cioffi, Roberto Sacca, Dmitri Borostovski, l'orchestre et le chœur du Théâtre de la Fenice sous la direction de Laurine Mazel. C'était en 2004, je vous regardais écouter cet extrait de la Traviata, Robert Carsen. D'une part, vous agitiez le doigt comme un chef d'orchestre et d'autre part, je voyais dans votre regard que vous vous souveniez peut-être de ce qui se passait quand vous avez rouvert la Fenice après le célèbre incendie, hélas, de 1996. C'était vous avec la Traviata. Peut-être que vous étiez en train de revivre ce moment-là.
Je n'étais pas sûr, quand vous avez lancé l'extrait, que ça allait être cette première version de Traviata que vous avez entendue. Mm-hmm. Ils ont décidé d'ouvrir le théâtre avec cette première version, qui était d'ailleurs un échec. Lors de la création à la Fenice et que Verdi a retravaillé après pour la version qu'on entend d'habitude. Donc j'étais fasciné de réécouter ça.
Vous pouvez.
Puisque on n'avait pas avec les années successives qu'on a repris le spectacle, on est basculé sur la version soi-disant classique.
Racontez-nous ce moment où vous arrivez à la Fenice, qui renaît de ses cendres en 2004, qui rouvre au public, que les Vénitiens peuvent aussi retrouver avec sans doute beaucoup d'émotion. Comment ça se passait pour vous et vos artistes? Vous reveniez dans un lieu détruit, un lieu d'histoire.
C'est vrai que c'était très émouvant. Bien évidemment, je suis venu au théâtre avant l'année de la réouverture, puisque le projet était 2 ans en préparation. Donc on a pu assister au fait que le théâtre était en train de se terminer. Donc j'ai pu voir au fur et à mesure comment le décor de l'intérieur, les loges, tout le bâtiment était reconstruit petit à petit pendant ce temps. Et c'était assez étonnant. Ils avaient pris la ville, et je pense que l'État italien aussi, ils ont pris la décision de reconstruire comme era, dove era, comme ils ont dit, où c'était et comment c'était. Donc il n'y avait pas question d'une nouvelle version de la Fenice. Donc ils ont reconstruit le théâtre, mais ils ont basculé sur la schéma visuel de la décoration de l'auditorium de la version antécédente, puisque la Fenice a brûlé plusieurs fois. Mmh. Donc le phénix qui naît de ses cendres, c'est quand même un nom pour ce théâtre un peu qui a certaines raisons, étant donné les événements. Donc, c'est toujours pareil quand on est sur un nouveau plateau, on doit découvrir comment fonctionne le technique, les particularités de la scène. Par exemple, le théâtre La Fenice a une structure de proscenium intérieur un peu qui n'est pas comme les autres théâtres dans cette reconstruction. Donc il fallait maîtriser ça. Il y avait plein de choses. Je me rappelle aussi les lieux où on a répété en attendant qu'on pouvait finalement se mettre sur le plateau. C'était bien évidemment très émouvant et c'était aussi excitant de on voyait le public, les Vénitiens aussi, le public international qui était très curieux et qui était très inquiet et très impatient pour redécouvrir la salle. Donc c'était une responsabilité un peu lourde,
oui,
mais très émouvant.
Alors la plupart du temps, quand vous proposez une mise en scène, Robert Carsen, vous n'hésitez pas à poser un regard beaucoup plus contemporain que l'œuvre en soi. Vous n'avez pas situé la Traviata en 1853, mais dans les années 70-1970.
Oui, mais en même temps, j'ai essayé de respecter ce que Verdi voulait. Et il ne faut pas oublier, je pense que trop de gens l'oublient, que Verdi, quand il a cherché la Traviata comme sujet, il a écrit une fameuse lettre à Ricordi, son publisher, comme on dit mm-hmm. en anglais, dans laquelle il a dit « Finalmente un soggetto di nostra epoca ». Finalement, j'ai trouvé un sujet de notre époque. La Traviata, d'après le roman et ensuite la pièce de théâtre,
La Dame aux Camélias.
Oui, la Dame aux Camélias représentait une société moderne. Et Verdi voulait montrer un miroir, pour ainsi dire, à son public. Il voulait, tout comme Mozart avec les Noces de Figaro, avoir le public représenté eux-mêmes en costume moderne sur le plateau. Donc c'était une œuvre qui était conçu pour être une réflexion de sa public.
Et il n'a pas eu le droit de présenter sa Traviata en costume contemporain.
Voilà. Les censeurs autrichiens, puisque Venise était sous l'occupation des Autrichiens, a convoqué M. Verdi pour lui dire que le sujet était beaucoup trop choquant et qu'il aurait droit seulement de présenter son œuvre s'il acceptait que l'action soit transposée dans l'époque de Louis XIV, qui était un non-sens total. Donc, la première mondiale de Traviata a eu lieu dans les décors et les costumes et les perruques et les maquillages de Louis XIV. D'ailleurs, Verdi n'a jamais vu l'œuvre pendant sa vie comme il voulait le voir. Et c'était seulement monté en costume Napoléon III, Deuxième Empire, après que Verdi soit mort, où c'était déjà une chose historisante et pas du tout ce qu'il voulait. Donc, si vous voulez, j'estime que montrer... la Traviata dans les costumes d'époque du public est la seule façon d'être vraiment fidèle aux volontés de Verdi.
Alors votre Violetta, si je puis dire, la courtisane Violetta, qui aime Alfredo et qu'Alfredo aime en retour et qui vont tous les deux vers un destin tragique, vous en faites une prostituée de la jet set, autrement dit une pute de luxe.
Je pense que c'était important qu'on se rappelle de quoi s'agit l'œuvre. Le problème, et c'est ça que Verdi développe de manière si magnifique, c'est que la seule personne qui a un réel vertèbre morale dans toute l'histoire, c'est Violetta, qui est jugée par la société d'être indigne puisqu'elle se vend pour l'argent. C'est une courtisane, mais courtisane, c'est une mot assez long pour dire une prostituée. Ça veut dire qu'elle vend ses faveurs physiques en récompense pour de l'argent.
Alors elle vit en déshabillé noir, elle porte des talons et on la voit comme ça dans votre mise en scène.
Oui, mais ce qu'elle porte, oui. Mais est-ce que c'est vraiment... Ça fait partie de l'atmosphère dans laquelle on l'a mis, puisque les choses ont évolué depuis comment les filles de joie ou poules de luxe ou courtisanes, tout ce que vous voulez, étaient habillées pendant le Deuxième Empire et aujourd'hui.
Mais vous avez voulu une charge sexuelle, volontairement, parce qu'elle rejaillit sur les autres personnages, cette charge sexuelle.
Oui, et je voulais aussi qu'on n'oublie pas qu'on parle tout le temps dans cet opéra de l'argent. D'ailleurs, c'était assez choquant à l'époque. Je pense qu'ils n'avaient jamais entendu un livret dans lequel on parlait autant de fois de l'argent. Alfredo parle d'argent, Violetta, le père. Ils n'arrêtent pas de parler de sujets qui ne figuraient pas du tout dans une œuvre lyrique. Il y a Alfredo qui jette l'argent à Violetta pour la repayer, mais en effet, il lui récompense pour ses faveurs sexuelles. C'est ça qui est horrible en ce moment.
Il y a presque l'argent qui pleut sur elle dans votre mise en scène.
Oui, il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent. des feuilles d'argent qui tombent comme des feuilles d'automne des arbres. Bien sûr, on a un peu souligné se fait de manière un peu onirique, parfois cauchemardesque, si vous voulez.
Ça, c'est vraiment une des marques Carsen, je trouve, cette volonté d'impliquer le spectateur en choisissant des partis pris contemporains.
C'est vous qui le dites.
Oui. Mais c'est vrai que c'est une de vos idées majeures, impliquer le spectateur, parler aux contemporains.
Oui, absolument. Et je pense que... Vous savez, je l'ai dit plusieurs fois, mais pour moi, quand je m'attaque à une œuvre qui date de 100, 200, 300, 400 ans, pour moi, il reste toujours très moderne, puisque les œuvres étaient modernes au moment de leur création. Donc le fait qu'il y a autant d'années qui se sont écoulées entre l'œuvre et nous, ce n'est pas du tout la faute à l'œuvre. Donc il ne faut pas embaumer les œuvres dans une vision historisante.
Ouais, vous avez peur de muséifier les opéras.
J'aime pas du tout. C'est du théâtre. Le théâtre, c'est une chose vivante. On parle de notre humanité commune qui n'a pas tellement changé. Ce n'est pas le iPad 9 ou le dernier développement technique qui va changer l'essence de l'être humain, Dieu merci. Et je pense que si on retourne à ces œuvres comme la Traviata, que Verdi n'aurait jamais pu imaginer, serait quelque chose qui pourrait représenter l'art lyrique et son siècle, c'est à cause du fait que nous n'avons pas changé et qu'on sent et on ressent la sincérité qui nous émue toujours dans l'écriture de Verdi.
Robert Carsen, quand on revoit sa mise en scène et quand on la reprend pour la proposer aux spectateurs de la Fenice de Venise 10 ans après, est-ce qu'on n'a pas envie de la retoucher? Est-ce que, étant donné qu'on a vieilli, mûri et monté d'autres œuvres, on n'a pas envie de, comme un peintre, faire des petites retouches ici et là sur la toile?
Mais de toute façon, cette production que nous n'avons jamais imaginée aurait été un tel succès, on l'a donnée chaque année depuis 2004. Et parfois plus qu'une fois, parfois deux fois, cette année déjà trois fois. Donc on arrive à notre centième représentation de
en
cette
novembre,
production.
Hein.
Oui, en novembre. Et on a eu beaucoup, beaucoup d'interprètes différentes. On est toujours très content que Patricia Cioffi, qui a commencé cette production, reprend la production régulièrement, puisqu'elle est exceptionnelle. Mais chaque fois qu'il y a un autre artiste, on doit modifier, revoir un peu, puisque la Traviata devient sa Traviata et séparée pour les autres rôles. Donc la chose n'est pas... Il y a un blueprint, il y a une architecture, mais ça... Ça change en fonction de qui interprète le rôle et qui est le chef d'orchestre aussi, bien évidemment.